réalisé et animé par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel, une émission de la Radio Juive de Marseille. C'est jeudi, c'est votre émission, c'est Judaïsme Pluriel. Ce soir, l'intelligence animale. Avec Christophe Rodeau. Parler de l'intelligence animale, c'est d'abord s'interroger sur le concept d'intelligence. Intelligence humaine d'abord, puis intelligence animale. Faut-il entendre la même signification dans les deux cas? Il existe peut-être une distinction entre intelligence, concept abstrait, et comportement intelligent. En ce qui concerne l'intelligence animale, il existe une discipline spéciale appelée éthologie cognitive que nous allons définir, expression d'ailleurs initialement proposée par Donald Griffin, zoologiste américain, dans son livre « La question de l'esprit animal » publié en 1978. Dans sa thèse soutenue à l'école doctorale de l'Université de Toulouse en 2012, Maxime Cauchois écrit « Le monde animal recèle des comportements aussi surprenants que ceux qui ont poussé l'homme de tout temps à chercher à savoir ce qui se passe dans la tête des animaux. Ma conviction, c'est que les animaux pensent à leur manière. Mais il pense. » Fin de citation. Eh bien, pour développer succinctement ce sujet, car il faudrait plusieurs heures pour le découvrir totalement, notre invité ce soir est Christophe Rodeau. Christophe Rodeau n'est pas un inconnu de ce micro, puisque nous avons fait avec lui plusieurs émissions, rappelez-vous, sur la mémoire et récemment sur les neuromythes. Christophe est chercheur en neurosciences, doctorant sur le sujet de la mémoire. Il est par ailleurs très engagé dans la vulgarisation des sciences. Il est rédacteur de Cerveau en argot et Blog and Brain, deux blogs. Il tient aussi la chronique sur Radio Grenouille qui s'appelle La tête sur le cerveau. La tête, pardon, dans le cerveau. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Roland.
Très heureux de te retrouver à ce micro.
Très heureux aussi.
Alors Christophe, j'ai un petit peu éclairé le sujet que nous allons aborder ce soir. Et pour commencer, est-ce que tu es d'accord? Parlons de l'intelligence, le concept et le comportement intelligent. Avec une question, existe-t-il une définition universellement acceptée?
Waouh. Alors, c'est une question très complexe et vraisemblablement, j'aurais pas de réponse à te donner ce soir.
Je m'y attendais.
Parce que l'intelligence, ça recouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il semblerait que même les chercheurs qui travaillent sur l'intelligence ne soient pas tous d'accord sur la définition à donner à ce terme d'intelligence.
Je comprends tout à fait. Alors,
l'intelligence, ça peut se voir sous différentes facettes. L'intelligence, c'est créer des liens logiques entre les choses. L'intelligence, c'est avoir des comportements qui vont nous permettre de nous développer, qui vont nous permettre de survivre, qui vont nous permettre d'échapper aux prédateurs. L'intelligence, ça a plusieurs facettes. et ça permet notamment d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences. Oui, l'intelligence, c'est très complexe comme
c'est
sujet.
Très complexe. Est-ce qu'on peut parler de comme intelligence d'une connaissance rationnelle?
C'est compliqué là aussi. Est-ce que l'intelligence renvoie obligatoirement à quelque chose de rationnel? Est-ce que on ne peut pas considérer que l'appréhension artistique, le sens esthétique, c'est pas aussi une forme d'intelligence? Cette façon de créer du lien entre des formes, un ressenti, une émotion. Oui, c'est pour ça que ça va être très compliqué de parler d'intelligence. Et c'est pour ça qu'on va parler des animaux, parce qu'on ne va pas essayer de le définir pour l'homme, on va essayer de parler
des animaux
et voir ce qu'on pourrait identifier comme intelligent chez d'autres espèces.
D'ailleurs, c'est le sujet de ce soir,
effectivement.
L'intelligence animale. Mais enfin, je vais tout accueillir.
Oui, bah oui, oui j'ai bien compris, j'ai bien compris.
Bon, y a-t-il plusieurs formes d'intelligence? Tu as presque répondu à cette question.
J'ai presque répondu, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que on peut trouver tout et n'importe quoi en intelligence. Et il y a même un chercheur qui, dans les années 80, a défini ce qu'il appelle la théorie des intelligences multiples. L'idée que nous, humains, aurions plusieurs facettes de l'intelligence. Et c'est comme ça qu'on a l'intelligence personnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence naturaliste, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle. Mais c'est très compliqué parce que sur le papier, c'est très joli cette distinction. Mais ça ne semble pas être retrouvé au niveau du fonctionnement cérébral. Donc, plusieurs facettes à l'intelligence, vraisemblablement, mais de là à catégoriser plusieurs types d'intelligence dans des boîtes, comme on a pu le faire lorsqu'on parlait de mémoire, pas aussi catégoriquement, en fait, vraisemblablement.
Bon, est-ce qu'on peut distinguer l'intelligence personnelle et l'intelligence collective?
Alors, qu'est-ce que tu appelles intelligence collective?
Eh bien, c'est une intelligence, je dirais que c'est peut-être un comportement d'un groupe.
Oui, voilà. Alors, et là encore, et c'est pour ça que je me suis permis de te demander la définition, c'est parce que on utilise intelligence pour parler de plein de choses différentes. Et effectivement, catégoriser le comportement d'une foule, catégoriser le comportement d'un groupe, ça peut se catégoriser sous le nom de intelligence collective. Mais est-ce que c'est exactement la même chose que lorsque je parle d'intelligence, lorsque j'arrive à créer des liens logiques entre les choses? C'est très compliqué.
Ouais,
c'est que voilà, le gros problème, la grosse difficulté avec intelligence, c'est que on a du mal à le définir et assez souvent on l'utilise pour parler de plusieurs choses qui sont assez différentes.
Bon. Alors je te demande pardon tout de suite, parce que je sais que avec mes questions, je peux t'amener n'importe où,
okay. Tu
me remets sur le bon chemin.
Okay.
Voilà. Alors, que nous apporte l'imagerie cérébrale et la connaissance de la génétique dans une certaine définition de l'intelligence?
Alors, la génétique, c'est très compliqué, parce que tu identifierais des gènes de l'intelligence, vraisemblablement pas. Okay, c'est comme, là on est sur un comportement qui est complexe, on est sur ce qu'on appelle une fonction cognitive, ces grandes fonctions du cerveau, et vraisemblablement, comme tu ne peux pas identifier de gènes qui seraient liés à la violence, de gènes qui seraient liés à d'autres comportements complexes, on aurait plusieurs gènes qui pourraient participer à cette chose complexe qu'on n'a pas réussi à définir, qui est l'intelligence. Donc oui, la génétique pourrait apporter quelque chose, mais elle n'apporte pas de réponse catégorique en disant « on a le gène de l'intelligence, si vous l'avez, vous êtes intelligent, si vous ne l'avez pas, c'est fichu pour vous ».
Non, mais je ne peux pas dire par exemple que je suis intelligent, et je le suis bien sûr, parce que j'ai hérité ça de mes parents et de mes grands-parents.
Alors du coup, ça sous-entendrait que tous les prix Nobel auraient des enfants prix Nobel eux-mêmes. Et voilà, et là on voit que l'intelligence, c'est quelque chose qui est très complexe encore parce que c'est une interaction fine et aussi multiple entre d'une part ce que tu appelles la génétique, cette base d'inné, et d'autre part tout ce qui va être l'environnement, l'acquis, tout ce qui va faire que tu vas réussir à développer certaines compétences et pas d'autres en fonction de l'endroit où tu grandis. Et donc ça serait cette interaction très complexe entre inné, acquis, intelligence, qui serait liée à la génétique, intelligence qui serait liée à mon environnement, qui créerait ce tout qui fait de toi un être intelligent.
Merci.
Sans doute, sans aucun alors, doute.
On a parlé de génétique, mais aussi, pour la connaissance, l'imagerie cérébrale.
Là aussi, l'imagerie cérébrale, c'est très intéressant, mais c'est un outil. Et comme pour tous les outils, il faut poser la bonne question pour pouvoir utiliser cet outil. Si tu as déjà du mal à définir ce qu'est l'intelligence, comment est-ce que tu veux utiliser cet outil pour mettre en avant le fonctionnement du cerveau, révéler ce qu'est l'intelligence? L'imagerie cérébrale est très intéressante parce qu'elle permet de voir ce qu'il se passe lorsque, par exemple, tu es face à une équation mathématique et voir ce qu'il se passe dans ta tête lorsque tu vas avoir ce début de résolution, ces liens logiques qui vont se mettre en place. On pourrait appeler ça l'intelligence et voir que ça va modifier le débit sanguin dans certaines régions cérébrales et donc sous-entendre qu'on a certaines régions du cerveau qui sont plus actives et dire que ces régions seraient liées à l'intelligence. Oui, mais là encore, c'est très circulaire tout ce qu'on dit. Du moment qu'on n'arrive pas à définir l'intelligence et qu'on voit que c'est un concept qui est très complexe, l'imagerie cérébrale peut apporter des choses, mais elle est quand même limitée à la question qu'on lui pose. Et si on ne peut pas lui poser une question en disant « ça c'est intelligent, comment ça marche dans le cerveau ?» ben, c'est très complexe de voir quelque chose. Mais oui, c'est très intéressant d'utiliser l'imagerie cérébrale.
Bon, alors, ce concept d'intelligence qu'on ne peut... C'est un vrai concept.
Ah oui,
ça
ne suit
pas sur la morphologie du cerveau ou autre chose. Donc, par contre, le comportement intelligent, lui, il peut être mesuré, non? Quelle différence on fait entre les deux?
Alors, ça me permet tout de suite de mettre à plat. Je suis en train de dire que l'intelligence, c'est très compliqué, qu'on a du mal à poser des termes, que les chercheurs ensemble ne sont pas d'accord, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas étudié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chercheurs, des courants de pensée de certains chercheurs qui défendent une définition de ce qu'est l'intelligence, qui pourrait être confrontée à d'autres définitions. Donc l'intelligence, dans une certaine mesure, dans un certain contexte, ça peut s'étudier. Et effectivement, à côté de ce concept effectivement d'intelligence qu'on aurait du mal à définir, il y a d'autres choses qu'on peut plus facilement mesurer, et c'est ce que tu nommes ces comportements dits intelligents.
Voilà.
Et c'est ces comportements-là qu'on va pouvoir mettre en évidence, que l'on va pouvoir essayer de quantifier chez différents groupes d'individus, qu'ils aient une pathologie ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils aient certaines mutations génétiques ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils aient grandi dans certains contextes socio-économiques ou dans d'autres, ou encore la différence qu'il peut y avoir avec certains animaux.
Alors encore une question, nous allons passer au domaine animal. Mesurer l'intelligence, c'est quoi? On parle de qui? On parle d'autre chose?
Alors, mesurer l'intelligence, c'est un gros challenge, mais là aussi, comme ça a plein de facettes, cette intelligence, c'est très compliqué de mesurer ça, et il ne faudrait pas faire l'amalgame entre un test de QI, donc de quotient intellectuel, et l'intelligence. Le QI. C'est quelque chose qui est très reproductible, qui permet de mesurer des choses qui sont corrélées au fonctionnement cérébral. Effectivement, en fonction de ton résultat au QI, on peut corréler ça à un fonctionnement cérébral spécifique. La transmission de certaines informations traitées par les neurones, on peut corréler tout ça. Mais le QI n'est pas l'intelligence. Le QI sert à mesurer quelque chose, mais ça ne mesure pas directement et l'intelligence dans sa globalité. Donc il ne faudrait pas faire cet amalgame entre intelligence et QI. Et pour répondre à ta question, mesurer l'intelligence, ben c'est très complexe.
Très complexe. Voilà. Ce soir, c'est le maître mot de la complexité.
Oui, mais
bien, on va souffler un petit peu, si tu veux, après cette complexité. Okay. Et demander une pause musicale à Jonathan. Vous êtes à l'écoute de Judaïsme Pluriel et je vous rappelle que ce soir, avec Christophe Rodeau, nous parlons d'intelligence animale. Alors justement, puisque nous parlons d'intelligence animale, venons-y à ce sujet-là. Et j'ai dit tout à l'heure que l'intelligence animale était étudiée par l'éthologie. Alors, est-ce que tu veux bien nous préciser ce qu'est l'éthologie ?
Alors, là où, dans la première partie de l'émission, on était sur du complexe, du difficile à définir, maintenant on va pouvoir entrer dans quelque chose d'un peu plus précis. Si je résume à peu près, l'éthologie, ça va être l'étude du comportement animal, de manière assez catégorique et assez résumée, c'est étudier comment les animaux vont pouvoir interagir avec leur environnement, comment les animaux vont pouvoir interagir au sein d'un groupe. C'est ça. Mais tu vas peut-être...
Tu viens de préciser un mot important, dans leur environnement, c'est-à-dire que on va les étudier dans leur environnement naturel.
Effectivement. Et on ne va pas les prendre dans un laboratoire, les sortir de leur contexte et de leur habitat. On va vraiment s'intéresser au comportement écologique, au comportement naturel de l'animal dans son habitat naturel.
D'accord. Et alors, on a parlé, je cherche mes papiers, voilà. Je ne trouve plus, d'éthologie cognitive.
Oui.
Voilà. Alors, éthologie cognitive, explique-nous.
L'éthologie cognitive, c'est toujours dans cette idée de faire une étude du comportement animal dans son milieu, mais cette fois-ci, on va un peu plus s'intéresser à certaines grandes fonctions cérébrales. Cognitives, c'est dans les fonctions cérébrales, c'est par exemple la mémoire, c'est par exemple le langage, c'est toutes ces fonctions qui sont très élaborées. L'éthologie cognitive va s'intéresser notamment à observer, quantifier, mesurer quels peuvent être les indicateurs de ce type de comportement très élaboré.
Qui n'a rien à voir avec l'intuition peut-être.
Alors, l'intuition c'est très compliqué aussi, mais c'est différent, oui, mais c'est... oui, on est sur des comportements qui sont assez élaborés et qu'il est dans une certaine mesure possible de comparer à l'homme.
Est-ce qu'on peut dire que l'éthologie, en éthologie, l'intelligence, c'est ce qui permet, tu l'as déjà dit déjà, d'augmenter l'adaptation à l'environnement, mais aussi donc à la survie.
Oui, et encore une fois, c'est que l'intelligence peut se mettre, ce mot, un peu partout, et il peut avoir des significations légèrement différentes. Effectivement, dans le cadre de l'éthologie cognitive, on peut entendre intelligence comme tous ces comportements qui vont permettre d'être le mieux adapté possible à son environnement et de pouvoir assurer la survie de l'espèce et la survie de sa lignée, sa reproduction.
Est-ce que l'intelligence animale, j'essaye de cerner un peu les choses, est-ce que l'intelligence animale serait une accumulation de capacités particulières, telles que par exemple quand on dresse un animal ?
Alors,
est-ce que ça se limiterait à ça ?
Alors, est-ce que ça se limitera à ça ? Vraisemblablement non. Mais c'est vrai que, assez souvent, pour essayer de savoir si un animal est intelligent, on va essayer de retrouver chez lui des caractères que l'on nomme intelligents chez nous. Et tu comprends bien qu'on arrive là très vite à une limite, parce que si pour nous être intelligent, c'est savoir conduire une voiture, si être intelligent, c'est savoir lire, si être intelligent, c'est savoir parler, ben vraisemblablement, on ne va pas retrouver ce type de comportement identique chez l'animal. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que l'animal n'est pas intelligent ? Vraisemblablement, non. Mais c'est là qu'il faut prendre en considération toutes les capacités, qu'elles soient de l'ordre perceptif, de l'ordre cognitif, de l'ordre environnemental de ces animaux-là, et voir ce qu'ils sont capables de faire, et dans quelle mesure on peut essayer de dire si c'est des comportements qui sont élaborés, des comportements qui sont de haut niveau, des comportements qui, pour nous, pourraient être qualifiés d'intelligents.
Alors, en t'écoutant, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est apprendre.
Apprendre. Oui, alors, si on résume l'intelligence au fait de pouvoir être dressé, au fait de pouvoir apprendre des comportements, il y a une très grande partie du règne animal qui peut être considérée comme intelligent. Si on se limite à ça, heureusement, on peut aller quand même beaucoup plus loin que tout ça. Mais oui, et même lorsque tu dis apprendre, est-ce que l'animal apprend réellement ce qu'on pense lui faire apprendre, ou est-ce qu'il décrypte seulement ce que il nous donne seulement ce qu'il pense que l'on attend? Oui. Je vais éclaircir tout ça avec avec une histoire.
Voilà.
À la fin des années 1800, au début des années 1900, en Allemagne, un professeur de mathématiques retraité avait la forte intuition que les animaux étaient capables d'une forme d'intelligence, étaient capables, comme les humains, d'apprendre à lire, d'apprendre à compter. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris trois animaux, un chat, un ours et un cheval. Ça commence comme une mauvaise blague, mais l'histoire est quand même plus intéressante. Et il va passer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il va essayer d'apprendre à ces animaux à lire, à répondre à des questions, des problèmes mathématiques. Très rapidement, il va abandonner le chat et l'ours, parce qu'il trouve que ça ne marche pas. Mais chez le cheval, il va trouver quand même quelque chose d'assez surprenant. Au bout de 4 ans d'entraînement, le cheval sait lire, le cheval sait compter, et il peut répondre à des problèmes mathématiques. Alors, on pose quand même les choses. Quand je te dis « il sait lire », c'est par exemple, face à lui, il y a un tableau noir. Sur ce tableau noir, il y a écrit 3 plus 4. Et le cheval est capable de dire la réponse de cette addition en tapant 7 fois de son sabot sur le sol. Wow. Ouais, c'est... Alors oui. Est-ce que le cheval a réellement appris à lire, réellement appris à compter, réellement il est capable de répondre à des problèmes mathématiques? Ben c'est toute la question que les contemporains de ce cheval, qui s'appelait Hans et qui a été renommé Hans le Malin pour ses capacités, les contemporains humains se sont posé cette question. Est-ce que l'entraîneur de Hans le Malin a un truc? Est-ce que c'est un subterfuge? Est-ce que c'est une tromperie? Ou est-ce que l'animal est réellement capable de faire ça? L'entraîneur de Hans, qui était un petit peu agacé des soupçons de supercherie, va lui-même contacter les autorités allemandes, le conseil de l'éducation allemand, pour diligenter une enquête et pour bien montrer que son cheval était réellement capable de faire tout ça. L'enquête va avoir lieu, on réunit 13 spécialistes, des gens qui sont issus du monde du cirque, des zoologues, des gens qui sont issus du dressage animal, un grand panel des psychologues. Et pendant 2 jours, cette commission d'enquête va s'intéresser à ce cheval. Au bout des 2 jours d'enquête, cette commission dit « Même lorsque l'entraîneur n'est pas là, le cheval est capable de donner les bonnes réponses. » Alors ils sont quand même prudents. Ils vont pas dire que le cheval est capable de lire, d'apprendre et de compter. Il conclut qu'il y a quelque chose d'intéressant et que ça demande un peu plus d'enquête. Un des membres de la commission est quand même dubitatif. Il se dit, mais c'est quand même très étrange. Est-ce que le cheval est réellement capable d'apprendre à lire, à compter, répondre à des problèmes mathématiques? Il va, de son côté, avec un autre de ses collègues psychologues, continuer à mener l'enquête. Et son enquête aboutit à la même chose. Le cheval, dans la plupart des cas, même en l'absence totale de son entraîneur, est capable de donner les bonnes réponses. Mais ces deux psychologues vont observer quelque chose de très intéressant. Ils observent que si la personne qui donne le problème au cheval est très loin du cheval, le cheval va mettre plus d'erreurs, va répondre moins bien. Si la personne qui donne le problème au cheval est caché, le cheval va plus se tromper. Et si la personne qui donne le problème au cheval ne connaît pas elle-même la réponse à la question, le cheval va encore une fois un peu plus se tromper. Et c'est là qu'est la réponse à cette question de est-ce que lorsqu'on fait apprendre quelque chose à un animal, il apprend qu'on pense lui faire apprendre, ou est-ce qu'il apprend autre chose? Vraisemblablement, Hans le malin, ce cheval, n'était pas capable ni de lire, ni de compter, ni de répondre à des problèmes mathématiques. Ce qu'il semblait capable de faire, c'est de lire les informations de la personne qui posait le problème, décoder son comportement, décoder la dilatation de ses pupilles. En fait, ce qu'il semblait capable de faire, c'est décoder la réponse qui était attendue par l'individu. Lorsque on commençait à approcher de la réponse, que le cheval tapait du sabot et que la réponse arrivait, ben l'interrogateur changeait de comportement. Et c'est ce changement subtil de comportement que l'interrogateur lui-même n'arrivait pas à percevoir, que le cheval était capable de décoder. Et c'est ce qui lui permettait vraisemblablement de donner les bonnes réponses. Et c'est là qu'on rentre dans cette définition très compliquée de l'intelligence animale. Si on s'arrête sur l'idée « je veux faire apprendre à un cheval cette lecture », mais c'est un échec. Le cheval ne sait pas lire. Est-ce que pour autant il n'est pas intelligent? Si on regarde, le cheval a quand même mis en place une stratégie qui lui permet de décoder le comportement de la personne qui est en face de lui et de donner au bon moment la réponse que l'interrogateur attend. Est-ce que ça, c'est pas un comportement qu'on peut qualifier d'intelligent?
Ah, je pense que oui. Je pense que oui, c'est une forme d'intelligence. Ouais. Une forme d'intelligence. Et alors, si j'ai bien compris, l'interrogateur, lui, n'est même pas conscient de ce changement. C'est le cheval qui perçoit la chose.
Effectivement. C'est des changements qui sont très subtils et que l'interrogateur lui-même ne laisse pas percevoir. Mais pourtant, c'est des indices que le cheval, lui, va être capable de capter, va être capable d'analyser.
Bon, eh ben on va faire une petite pause musicale, si tu veux bien, Jonathan. Toujours avec Christophe Rodeau qui vient de nous parler de l'exemple de Hans le Malin, un exemple qui nous fait bien bien réfléchir. Eh bien, on va continuer et Christophe va nous proposer d'autres études sur justement ces animaux. Christophe.
Effectivement. Et ce que je te propose, c'est qu'on parte peut-être de quelque chose qui est peut-être le plus proche de nous et qu'on considère comme intelligent, et ensuite finir par quelque chose qui est très loin de nous et qu'on pourrait se dire que non, ces animaux-là ne peuvent pas être intelligents. Mais commençons au plus proche et parlons du meilleur ami de l'homme, parlons du chien. Et j'ai quelques exemples très intéressants à te mentionner. Il y a une étude récente qui a été faite avec des chiens. C'est assez simple. On prend des chiens, ils sont habitués à rester immobiles dans une machine IRM.
Oui.
Et à ces chiens, on leur présente deux types d'images. Soit des images qui représentent des photographies de visages d'humains, soit des photographies de têtes, de visages de chiens. Et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau lorsqu'ils voient des visages humains ou des visages de chiens. Et là, c'est très intéressant. Ce qu'on voit, c'est que, peu importe que ce soit des visages humains ou des visages de chiens, on va avoir une région cérébrale qui semble s'activer spécifiquement à la vision des visages.
Juste une question.
Oui.
Visage humain connu ou inconnu?
Visages inconnus.
Inconnus, d'accord.
Des visages que le chien ne connaît pas.
D'accord.
Tout comme pour les autres chiens. C'est purement de la nouveauté. C'est une partie de l'étude. Après, ils ont fait une autre partie avec un peu plus de familiarité. Mais là, restons sur cette partie-là.
D'accord.
Et donc, ce qu'on voit, c'est que peu importe le type de visage, on va avoir une activation d'une région très précise du cerveau. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que si ce sont des visages de chiens, on va avoir une région très précise qui va s'activer. Si c'est des visages d'humains, c'est une région qui est voisine de la région des visages des chiens, mais c'est une région qui est différente. Alors là, on est sur un niveau qui est très très basique. Est-ce qu'on appelle ça de l'intelligence ou de la perception ? C'est très compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà, les chiens sont capables, au niveau cérébral, d'avoir une activité qui semble dissocier sa propre espèce d'une autre espèce. Est-ce que cette deuxième région est spécifique à l'homme ou juste ce n'est pas un chien ? Ben c'est déjà un premier niveau qui nous montre que le chien est capable de catégoriser, de dire ça c'est un chien et ça c'est autre chose.
Ça c'est autre chose.
On va monter un petit peu d'un cran. Toujours avec le même type de protocole, mais cette fois-ci on prend des chiens et on les entraîne. Alors c'est des chiens qui sont entraînés avec leur maître et leur maître a à sa disposition deux objets bien différents. On présente les deux objets au chien et on les met à 4-5 mètres du chien et le maître dit au chien « va chercher » et désigne un des deux objets. « Va chercher la peluche » ou « va chercher la balle ». Lorsque le chien va chercher l'objet qui a été correctement désigné, si on lui dit « va chercher la peluche » et qu'il rapporte la peluche, on donne une récompense au chien. Si le chien rapporte la balle alors qu'on lui a dit « va chercher la peluche », il n'a pas de récompense. On fait ça plusieurs fois pendant plusieurs semaines, et lorsque le chien est capable, dans 100% des cas, de rapporter l'objet correct qui a été désigné, l'entraînement prend fin. Et là, on passe à la deuxième partie de l'expérience. Ces chiens, on les met là aussi dans une machine IRM. Et à ces chiens, pendant que la machine IRM est en train d'analyser le fonctionnement de leur cerveau, leur maître va soit dire un des deux mots que le chien connaît, peluche ou balle, ou alors ce qu'on appelle un pseudomot. Un pseudomot, c'est un mot qui ressemble vraiment à un mot, qui est construit grammaticalement comme un vrai mot, mais qui est totalement inventé. Donc c'est un mot qui sonne comme un mot normal, sauf que c'est un mot qui n'existe pas. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que comme il n'existe pas, le chien ne l'a jamais rencontré. Donc en fait, ce qu'on teste ici, c'est qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau d'un chien lorsqu'il entend un mot qu'il connaît et un mot qu'il ne connaît pas. Et là, les résultats sont aussi super intéressants parce qu'on voit que on ne va pas avoir l'activité de certaines régions de la même façon. Ces régions ne vont pas s'activer avec la même intensité si le mot est connu ou s'il n'est pas connu. Et là, ça nous montre quelque chose de très intéressant. Ça nous montre que on pourrait croire à tort que les chiens vont juste analyser le son d'une certaine façon. Mais là, on voit que lorsque le son est un mot, et lorsque ce mot est connu, on va avoir une activité bien précise du cerveau. Par contre, lorsque le mot est nouveau, cette activité va être totalement différente. Ça nous montre que lorsqu'on emploie des mots face à un chien, le chien serait capable de décoder si le mot a ce son qui est bien spécifique et qui est un mot, a déjà été vu ou s'il est totalement inconnu. Donc lorsque tu dis à ton chien « va chercher la balle », le chien, pour réussir à aller récupérer la balle, vraisemblablement, il ne s'appuie pas seulement sur tous les indices qu'il peut lire en toi. Le fait que tu pointes la balle, le fait que tu viens de l'envoyer. Mais il pourrait réellement décoder ce mot de balle et avoir une représentation qui pourrait être assez proche de notre représentation des mots. Mais là, c'est des premières études qui sont très intéressantes, mais qui demanderont à être approfondies, notamment savoir quel peut bien être le décodage et la signification que peut avoir le chien face à un mot.
Si j'ai bien compris, lorsqu'il s'agit d'un mot connu et sur lequel on a travaillé avec le premier exercice, la balle ou la peluche, le chien est capable d'associer le mot, la balle, avec l'objet, la balle.
Effectivement. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'il ne dissocie pas seulement un mot connu, un son qu'il a déjà entendu d'un son qu'il n'a jamais entendu, mais c'est qu'il semble effectivement associer ce mot avec l'objet en
Exactement.
Question. Et donc avoir une conception du mot comme nous pouvons l'avoir. Si je dis le mot pomme, tu vas avoir une représentation de ce qu'est une pomme et peut-être même la définition. Ben, le chien, vraisemblablement, pourrait avoir le même type de représentation en ce qui concerne les mots.
Alors, je me pose une question.
Oui.
Si on changeait la balle, bon, la balle, elle peut être blanche avec des fleurs rouges, et si on changeait la balle et on mettait une balle bleue avec autre chose, est-ce que ça marcherait aussi? Est-ce que le concept de balle
ou bien serait transférable
précis?
Là, c'est une question, je pense, à laquelle on n'a pas de réponse, parce que justement, c'est une des pistes de cette étude, d'essayer de dire ben, jusqu'à quel point on associe ce terme à cet objet précis, ou ce terme à ce concept.
Exactement. Voilà.
Et là, ça va être justement, vraisemblablement, le sujet de nouvelles études qui vont essayer de s'intéresser à approfondir ce lien très précis. Et si tu me le permets, on va continuer sur les chiens.
Avec plaisir.
Et on va monter d'un niveau encore un peu plus élevé d'abstraction. Et c'est une étude que je trouve assez bien faite. C'est très simple. Tu as un chien. Et face à ce chien, il y a trois personnes. Il y a la personne du milieu qui a besoin d'aide. Une personne à gauche et une personne à droite. La personne à gauche, ça va être la personne neutre. Celle qui ne va absolument rien faire pendant l'expérience. Et la personne de droite, elle va avoir deux options possibles. Aider ou refuser d'aider. Ça, j'ai juste posé la situation. Donc, on est pendant l'expérience. Le chien est face à trois humains. L'humain du milieu a une boîte. Il veut récupérer ce qu'il y a dans la boîte, mais il n'arrive pas à accéder à ce qu'il y a dans la boîte. L'humain de gauche, c'est l'humain neutre. Il sert à rien. Il est juste là pour servir de contrôle. L'humain de droite, c'est celui qu'on va essayer de solliciter. Donc celui du milieu va demander de l'aide à celui de droite, et celui de droite peut soit accepter, prendre la boîte, ouvrir la boîte et rendre la boîte à celui qui était au milieu, ou alors ce qu'il peut faire, c'est refuser d'aider. D'accord ?
Très bien.
Ça, c'est la situation de base. Le chien voit ce qui est en train de se passer. Que l'humain de droite est aidé ou n'est pas aidé, ça ne va pas avoir d'incidence sur la suite de l'expérience. Une fois que l'humain de droite a aidé à ouvrir la boîte ou n'a pas aidé à ouvrir la boîte, l'expérience va s'arrêter. Et là, celui de gauche, qui était neutre et qui n'a pas participé à l'expérience, et celui de droite, qui a aidé ou pas, vont tous les deux proposer une friandise au chien. Et ce qu'on va observer, c'est vers quel individu le chien va aller. Et là, c'est super intéressant aussi, parce que ce qu'on voit, c'est que si l'humain a aidé, le chien va aller récupérer la friandise de celui qui a aidé ou de celui qui était neutre, sans aucune distinction. Voilà. Si celui qui était là et à qui on a sollicité de l'aide a été coopératif, ben il ne va pas avoir, le chien ne va pas aller spécifiquement vers lui, il ne va pas aller spécifiquement vers celui qui était neutre, il va aller de la même façon vers les deux. Par contre, si l'individu qu'on a sollicité a été non coopératif, n'a pas voulu nous aider, le chien va particulièrement l'éviter. Et va beaucoup plus aller chercher la friandise vers celui qui était neutre, vers celui qui n'a pas participé à l'expérience. Alors on peut se dire, oui, c'est très intéressant, mais ce qu'on voit avec ce type d'expérience, c'est que vraisemblablement, le chien pourrait avoir une certaine représentation du sens moral, émettre un jugement sur les individus qu'il a face à lui. Ce qu'il a vu et ce qu'il a perçu, vraisemblablement, c'était un individu qui était en position de faiblesse, qui avait besoin d'aide, et soit un individu qui lui a apporté son aide, soit un individu qui lui a refusé son aide. Le chien va donc adapter son comportement en fonction de la réaction des individus. Et si cet individu n'a pas aidé, si cet individu qui est à qui on a demandé de l'aide n'était pas coopératif, le chien va vraisemblablement mettre un jugement plutôt négatif sur cet individu et avoir tendance à l'éviter. Et là, on est sur un comportement qui est beaucoup plus élaboré, quelque chose comme le sens moral qu'on ne mettrait pas habituellement sur d'autres espèces que sur la nôtre.
Alors donc, si j'ai bien compris, dans la mesure où l'individu qui a été sollicité accepte d'aider, au niveau du choix du chien, il est au même niveau que celui qui n'a pas du tout été, qui n'a pas été sollicité.
Effectivement. Alors, vraisemblablement, quand je parle de comportement moral, là, on extrapole énormément. Vraisemblablement, ce qui peut se passer pour le chien, c'est catégorie des individus en coopérative ou non coopérative. Celui qui est neutre, on ne lui a rien demandé. Donc, on ne va pas attribuer l'étiquette coopératif ou non coopératif. Par contre, on attribuerait beaucoup plus facilement une étiquette non coopérative, et lorsque cette étiquette non coopérative est attribuée à un individu, on aurait tendance à l'éviter.
Et ça, quand on parle de cette expérience, c'est une expérience qu'on peut refaire plusieurs fois avec différents chiens.
Effectivement, cette expérience a été faite, comme toutes les autres expériences que j'ai mentionnées avec les chiens, sur plusieurs animaux. On ne s'intéresse pas à un animal et assez souvent, notamment dans l'expérience avec les mots, savoir si les chiens décodaient les mots ou non, on utilise même plusieurs races de chiens pour essayer de voir si c'est un comportement qui se lie au niveau d'une espèce ou si c'est un comportement qui est lié à une souche bien précise de chien. Et là, voilà, on est sur des animaux qui sont très très proches de nous, et on voit que avec ces animaux très proches de nous, on a des comportements qui peuvent être très élaborés et qui sont très proches de ce qu'on pourrait catégoriser comme intelligent.
C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Quel est le pourcentage de réussite quand tu dis... quand tu décris donc la réalité des choses, est-ce que c'est 100%, c'est 80%, est-ce que c'est 50%?
Dans quelle expérience?
Dans l'expérience où le chien va accepter la friandise.
Le jugement moral?
Oui, jugement moral.
Alors, que je dise pas de bêtises, et ça me permet tout de suite de préciser que là on est en direct, on est en train de discuter, donc il peut m'arriver de dire des bêtises.
Mais moi aussi. Hein.
Mais tous les sujets qui parlent d'animaux et dont on parle ce soir... J'en ai fait des chroniques qu'on peut retrouver sur internet qui s'appelle La tête dans le cerveau. Et là, j'ai pesé tous les mots et j'ai été beaucoup plus précis. Alors, pour essayer de répondre à ta question, si je dis pas de bêtises, je crois que lorsque on va être face à un individu qui est non coopératif, le chien va aller près de 75% du temps vers l'individu neutre. Et seulement, il me semble, mais je dis peut-être des bêtises. C'était il y a très 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 longtemps que j'ai traité ce sujet.
En tout cas, c'est bien au-dessus des 50%.
Ah oui. Effectivement, si ça me permet, si je me permets de dire qu'il y a une différence, c'est que ce n'est plus dû au hasard.
Oui, voilà.
C'est là la différence. C'est que lorsque l'individu a coopéré, a aidé à ouvrir la boîte, le chien vraisemblablement va aller de manière aléatoire vers celui qui était neutre ou vers celui qui était coopératif. Par contre... Lorsque l'individu devient non coopératif, là, ça devient significatif. Et le chien va spécifiquement plus partir vers l'individu neutre que vers l'individu qui était non coopératif.
C'est une expérience très intéressante et qui demande à bien réfléchir sur ce comportement. Hein.
Ouais.
Voilà, est-ce que c'est... Oui, c'est peut-être une certaine forme d'intelligence, ça aussi. Hein.
Ouais. Mais là, on reste au niveau du chien.
Alors... Une pause musicale ou on passe à autre chose?
On peut peut-être... Comment?
Une petite pause musicale?
Une petite pause musicale.
Allez, une petite pause musicale si tu veux bien, Jonathan.
Look at your feet. These
Christophe Rodot, tu nous as passionnés avec cette histoire de chien. Et puis là, on vient d'écouter une pause musicale. Et je rappelle que c'est mon invité qui choisit la pause musicale. Alors Christophe, pourquoi cette... qu'est-ce que c'est, ce qu'on a entendu et pourquoi ?
On parlait des chiens et je te proposais qu'on s'éloigne de ce qu'on considère comme intelligent. Et avec cette pause musicale, c'est la musique d'introduction du film Microcosmos qui s'intéresse notamment à la vie des insectes qui se passe dans les brins d'herbe. Et si j'ai proposé cette pause musicale, c'est pour s'éloigner du chien et aller vers des choses qu'on pourrait difficilement considérer comme intelligent et parler d'insectes.
Ah.
Parler d'insectes, et on va notamment s'intéresser aux abeilles. Aux abeilles et aux mathématiques.
Mmh.
Alors, tu peux te dire que c'est des choses qui peuvent être très difficilement conciliables, insectes et intelligence, insectes et mathématiques. Mmh. Mais je vais te proposer une expérience qui a été faite et que je trouve très très intéressante. Cette expérience, elle se passe en deux temps, toujours la même chose, une phase d'entraînement et ensuite une phase de test. Pendant la phase d'entraînement, on va mettre une abeille dans un labyrinthe qui a une forme de Y. Donc l'abeille entre par la base du Y, ce couloir central, et elle arrive à une bifurcation. Un couloir qui part vers la droite et un couloir qui part vers la gauche. Au bout de chacun de ces couloirs, on a une pancarte. Et sur cette pancarte, il peut y avoir des éléments qui sont imprimés, et on peut avoir entre 1 et 5 éléments. La tâche de l'abeille, c'est d'aller au bout du couloir qui contient le moins d'éléments. Alors tu te dis sûrement, ok, mais comment est-ce qu'on fait apprendre à l'abeille qu'il faut qu'elle aille dans le couloir qui contient le moins d'éléments ? Si on lui donne des friandises, à la base de chacune de ces pancartes, au bout de chacun des couloirs, on a une petite coupelle avec une goutte de liquide. Si on est dans le bon couloir, celui qui contient le moins d'éléments, cette goutte de liquide, c'est du liquide sucré, une récompense. Par contre, si l'abeille prend le mauvais couloir, elle va trouver aussi une goutte de liquide. Mais cette goutte de liquide, c'est ce qu'on appelle de la quinine. C'est une substance qui est très amère. Que l'abeille déteste. Et donc c'est comme ça que petit à petit on va entraîner les abeilles, et alors qu'au départ les abeilles, lorsqu'elles se trouvent face à cette bifurcation, elles vont choisir totalement aléatoirement. 50% du temps elles prennent la bonne réponse, 50% du temps elles prennent la mauvaise réponse. Et on voit qu'avec le nombre de répétitions, petit à petit le taux de réussite augmente. 60%, 70%, 80%. Et lorsqu'elles arrivent à 80% de réussite, on considère que les abeilles sont entraînées. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième phase. Alors déjà, on peut trouver assez fou qu'une abeille soit capable de distinguer des cibles et de voir, d'arriver à comparer la quantité qu'il y a sur ces cibles pour se diriger et donc adapter son comportement en fonction des cibles. Mais ce qui n'est pas le plus fou. Vraiment, le plus fou, c'est ce qui va arriver pendant le test. Pendant le test, il va y avoir deux modifications. Première modification, on est toujours dans le même dispositif. L'arrivée centrale, le Y, et ensuite deux bras. La première modification, c'est qu'au bout de chacun de ces bras, on enlève la goutte de liquide, de récompense sucrée, ou de sanction amère. Pour être sûr que l'abeille, en fait, n'arrive pas juste à trouver le bon couloir en détectant cette substance. Donc on veut déjà être sûr qu'il y a ça. Et la deuxième chose qui est aussi très intéressante, et c'est là tout l'enjeu de cette étude, c'est que le problème, on va le poser différemment. Là où d'habitude, elle avait l'habitude de voir deux pancartes, une avec 1 à 5 éléments et l'autre avec 1 à 5 éléments, là, dans un couloir, on propose une pancarte avec 1 à 5 éléments, et dans l'autre couloir, on propose une pancarte vide. Alors pour nous, ça nous semble évident. L'absence d'éléments est en soi une réponse. Le rien, le zéro, c'est un concept qui veut dire que zéro, c'est inférieur à 1, à 2, à 3, à 4 et à 5. Mais pour l'abeille, est-ce que l'absence d'éléments, ce concept de zéro, est assimilé comme étant inférieur à une quantité allant de 1 à 5? Ce test, il est réalisé tout de suite après l'entraînement. L'abeille n'a jamais vu le zéro, c'est la première fois qu'elle le voit. Et donc on va voir comment elle va adapter son comportement. Et ce que l'on voit, c'est que l'abeille va aller dans le couloir où il y a le moins d'éléments, c'est-à-dire dans le couloir où il y a zéro. Vraisemblablement, l'abeille a un niveau d'abstraction qui lui permet de conceptualiser que l'absence d'éléments, c'est en soi la réponse qui veut dire qu'il y a moins d'éléments que là où il y en a.
Eh bien, c'est fort étonnant, hein, cette expérience. Et puis, ça permet de se poser beaucoup, beaucoup de questions. En tout cas, Christophe, merci beaucoup pour ces expériences passionnantes. Puis j'espère qu'on va se retrouver.
Ah ben j'espère aussi. Et j'en profite juste pour te dire que dans 15 jours, j'ai une nouvelle chronique qui va parler des abeilles. Et avec un dispositif très particulier qui ressemble à celui que je viens de décrire, je vais m'intéresser à savoir si les abeilles sont capables de faire des additions et des soustractions.
Ouf.
Et tout ça, ça s'écoute sur La Tête dans le Cerveau.
La Tête dans le Cerveau.
Qui se retrouve sur Internet partout.
D'accord. Merci Christophe. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt.
À très bientôt, j'espère.
Chers amis, à la semaine prochaine.